France Musique. C'est l'été sur France Musique. Le 7h30-9h de Gabriel Oliveira Guyon, Musique Matin.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Musique Matin. Ce mardi 10 août, je suis très heureuse de vous retrouver avec toute l'équipe et très heureuse également de recevoir le clarinettiste Yom. Tout à l'heure à 8h30 pour son concert à Jumièges, très bientôt dans le cadre du festival Les Musicales de Normandie. Et puis bien sûr, nous écouterons quelques extraits magiques de son dernier disque. Dans 10 minutes, notre revue de presse et un reportage ce matin sur un jeune violoncelliste qui a sillonné l'Europe tout le mois de juillet. Reportage signé Martin Delacoux. À 7h50, comme chaque matin, un jeu pour tenter de gagner ce matin le disque Tango de Pascal Comté. À 8h, le journal de Lise Lacombe. À 8h10, nous poursuivons notre tour de France des festivals. Il passe une frontière aujourd'hui. Nous passons une frontière. Direction l'Italie, à Pesaro, face à la mer Adriatique pour le festival d'opéra Rossini. À 8h25, place à la création. Ce matin, à l'honneur, la compositrice Élise Bertrand. Voilà, un réveil en douceur aujourd'hui. En douceur pour deux raisons, Jean-Sébastien Bach et Émile Naoumoff.
Thank you.
Sublime Emil Naumov dans ce Jesu bleibet meine Freude de la cantate BWV 147 de Jean-Sébastien Bach. À 7h36, nous poursuivons nous aussi les artistes, les festivals, les concerts qui existent partout en France. Et là, tout de suite, je voudrais vous parler des soirées lyriques du Ventoux qui sont organisées par Ventoux Opéra, parrainées par Roberto Alagna cet été. Un festival qui propose deux créations mondiales et un récital sur trois dates en août et en septembre. Festival d'art lyrique qui se déroule en plein air au pied du Ventoux Nord et qui commence ce dimanche 15 août avec un récital de Lucie Favier et puis le 17, c'est-à-dire mardi prochain, une création Napoléon ou l'amour nu de Pierre Tillois dans le cadre bien sûr du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier avec entre autres la voix de la révélation aux victoires de la musique classique en 2019 catégorie artiste lyrique, la mezzo-soprano corse Éléonore Pancrasi, un opéra qui sera donné donc lors des soirées lyriques du Ventoux dans le Vaucluse. Éléonore Pancrasi, que voilà dans l'air de Julie de l'acte 3 de L'amour, chantons la gloire, extrait des Voyages de l'amour de Joseph Baudin de Boismortier. La voix de la mezzo-soprano Éléonore Pancrasi, accompagnée par l'orchestre Orfeo de Budapest, dirigé par Gheorghi Vachegui, dans cet air de Julie de l'amour, chantons la gloire, un extrait des Voyages de l'amour, signé Joseph Baudin de Boismortier, un opéra-ballet en quatre actes, représenté à l'Académie royale de musique le 6 avril 1736. 7h40, bienvenue dans Musique Matin.
C'est l'été sur France Musique.
Et même l'été, nous ouvrons les journaux. C'est l'heure de notre revue de presse. Et nous commençons avec le Covid. Une fois n'est pas coutume, le Figaro titre « Inquiétude après 150 contaminations lors de deux festivals en extérieur aux États-Unis en juillet ». L'apparition de ces clusters sème le doute sur la sécurité d'événements réunissant de larges foules, même quand ils se déroulent en plein air. Les autorités sanitaires américaines se penchent sur des chaînes de transmission au Covid liées à ces festivals dans le Michigan et dans l'Oregon. Au moins 96 cas trouveraient leurs origines au Faster Horse Festival qui s'est déroulé à Brooklyn dans le Michigan. Les autorités sanitaires de l'Oregon enquêtent quant à elles sur 62 cas apparus après un concert au Pendleton Whiskey Music Fest. Aucun des événements n'exigeait du public qu'il soit vacciné, mais c'est une situation malheureuse, explique Doug Corey, l'un des organisateurs du festival de Pendleton. Il souligne que le festival a suivi toutes les recommandations gouvernementales pourtant et a réduit sa jauge de 20 000 à 12 000 personnes. Et puis retour ce matin sur deux festivals en France qui ont lieu actuellement. Non, d'ailleurs pas du tout en France. Christian Merlin au festival de Salzbourg qui signe un papier dans le Figaro, toujours arrêt sur Mirage pour Don Giovanni. Musique surchargée d'effets, juxtaposition de tableaux, distribution discutable à Salzbourg. L'opéra de Mozart peine à convaincre. Quand une représentation de Don Giovanni commence à 18h30 et se termine à 22h30 et que l'entracte a été de durée normale, des questions se posent, nous dit Christian Merlin. On dit souvent qu'à l'opéra, le metteur en scène ne peut intervenir sur le temps dicté par la musique. Ce n'est pas tout à fait vrai. S'agissant de l'opéra classique où l'on peut dilater celui des récitatifs proches du temps de la parole. Et c'est ce qu'a fait Romeo Castellucci dans la nouvelle production mozartienne donc du Festival de Salzbourg qui prend le parti de briser la fluidité des enchaînements pour pratiquer l'arrêt sur image et le tableau vivant, mais ce Don Giovanni de 4 heures est surtout le fait du chef Théodore Currensis. Christian Merlin, pas vraiment convaincu non plus par la distribution des chanteurs. C'est à lire dans le Figaro. Le festival de Salzbourg qui d'ailleurs a lieu jusqu'au 31 août. Et nous, ici dans Musique Matin, nous recevrons depuis Salzbourg justement Léa Desandré après-demain jeudi à 8h30 pour le rôle de Despina dans Così fan tutte, actuellement aussi au festival. Et après Salzbourg, la Rock d'Anteron, autre grand festival qui lui fête sa 41e édition, un petit jeune par rapport à Salzbourg. Dans Le Monde et lemonde.fr, on s'intéresse à l'économie du festival. La Rock d'Anteron reste autofinancée à près de 70% par la billetterie. Malgré la pandémie du Covid-19, le festival de piano propose des places de concert à des prix accessibles en adaptant cette année particulièrement les cachets des pianistes au budget de la manifestation et les artistes jouent le jeu. Il a fallu effectivement ajuster ce qui met en avant les jeunes talents, les stars mondiales, en tout cas tous les artistes jouent le jeu. René Martin nous explique en mai, pour éviter toute mauvaise surprise malgré les inconnus, nous avons revu le budget à la baisse en décidant que la jauge serait de 65%. Et aux côtés d'immenses pianistes qui ont pu revenir cet été, j'ai repensé la programmation en faisant appel à des orchestres mozartiens, c'est-à-dire 35 musiciens au maximum pour respecter les distances sanitaires. Une année normale d'habitude, le budget s'élève à 3 300 000 euros, dont près d'un quart provient de subventions. Et bien cette année, le budget de 2021 s'établit à 2,7 millions. Un article donc très complet à retrouver sur lemonde.fr. Et puis tout de suite, le reportage de Martin Delacoux. Un été à voyager pour découvrir l'histoire du violoncelle, c'est le projet de Rémi Bérard, un jeune violoncelliste amateur de 20 ans qui a gagné une bourse pour le réaliser. Un beau projet commencé en France, à Paris, poursuivi en Italie. Martin Delacoux l'a joint début août, alors que le jeune homme était à Bruxelles. Retour sur une expérience pas comme les autres.
Pendant un mois, Rémi Bérard a arpenté les routes européennes, son violoncelle sur le dos. Quand on lui demande le morceau qu'il a le plus accompagné dans son périple, il répond le premier prélude de Bach, sans hésiter. En plus de partir à la découverte de l'histoire du violoncelle, Rémi Bérard s'était fait une promesse, ne pas dépenser sa bourse en nourriture. Alors, est-ce que l'étudiant en prépa scientifique a tenu parole ?
J'ai tenu parole. Soit je joue dans des restaurants, je vais les voir, je vais leur demander si je peux leur faire un petit concert en échange d'un repas. Soit, par exemple, je joue dans la rue et je me fais un petit peu d'argent, puis ensuite je peux m'acheter à manger. Du coup, j'essaye de voir jusqu'à quel point je peux aller avec le violoncelle et essayer de tester un petit peu la générosité des gens et aller à la rencontre des gens grâce au violoncelle. Au début, j'avais un peu peur de faire ça. C'est un peu comme toute chose, faut juste y aller. On y va une fois. Au fur et à mesure, j'ai commencé à construire mon speech. Donc maintenant, c'est beaucoup plus facile, je sais comment m'y prendre.
Commence alors une série d'endroits plus insolites les uns que les autres, répertoriés sur le compte Instagram du jeune homme. Rémi, jouant du violoncelle dans un magasin de vélo parisien, sur un scooter à Florence, sur une gondole à Venise, mais aussi chez un coiffeur à Milan.
C'était très drôle parce que les clients, ils n'étaient pas habitués et ils ont bien aimé. Ce que j'aime bien aussi dans ce voyage, c'est que les gens ont un œil très surpris quand je commence à jouer du violoncelle qui s'y attendent vraiment pas. Ils sont surpris et contents en même temps.
Le violoncelle devient un moyen d'aller vers les autres, de faire du lien finalement. Exactement la ligne des bourses de voyage Zelidja, des bourses pouvant aller jusqu'à 1100 euros attribuées à quelques 120 jeunes chaque année.
Tu as entre 16 et 20 ans ? Tu as envie de voyager, d'aller voir ailleurs, de découvrir de nouvelles façons de penser. Inspire un grand coup et voyage avec une bourse Zelija. C'est maintenant ou jamais.
Et ce système, dont on vient d'entendre la vidéo de présentation, existe depuis 82 ans. Rémi Bérard a su convaincre le jury avec son projet, d'autant qu'il a une histoire particulière avec le violoncelle. Il avait arrêté d'en jouer au début du lycée, jusqu'à ce qu'on lui découvre une tumeur. Après une longue convalescence, le lycéen part aux États-Unis dans une famille d'accueil qui possède un violoncelle.
Et ça m'a fait énormément de bien de pouvoir rejouer du violoncelle. C'est là que j'ai trouvé une sorte un moyen d'expression. J'ai pu prendre confiance en moi grâce au solo que j'ai fait aux États-Unis. Du coup, le violoncelle m'a appris à me connaître. Et donc, du coup, j'ai un lien vraiment très très fort avec le violoncelle parce que quand je joue, je suis vraiment en pleine transe. Je suis vraiment concentré à fond dans mon instrument. Même si je sais que j'ai un niveau que je considère vraiment comme moyen. J'adore l'instrument.
Si le dossier remis à la fin de son voyage plaît, le jeune pourra repartir une deuxième fois avec les bourses Zelija.
Ophélie Gaillard au violoncelle, Emmanuel Rosfelder à la guitare et David Chupet aux percussions dans l'une des 7 chansons populaires espagnoles de Manuel de Falla, une œuvre créée en 1915 qui illustre à merveille l'amour du compositeur pour le répertoire populaire. C'était à l'instant Rota, une chanson d'origine aragonaise, un chant d'adieu entre deux amants. « 17h50. J'imagine que vous mettez votre réveil juste avant pour pouvoir jouer. Je vous laisse maintenant vous diriger vers notre site pour participer. Et à gagner ce matin le disque Tango de Pascal Contet avec l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie avec Paul Meyer. Pascal Contet qui est le directeur du festival Fort en Musique en partenariat avec France Musique et qui commence ce jeudi. Alors, répondez correctement à la question qui va suivre en nous écrivant via l'onglet Contactez-nous sur la page de notre émission Musique Matin sur francemusique.fr. Évidemment, en n'oubliant pas de nous indiquer vos coordonnées complètes pour pouvoir être sélectionné parmi les gagnants et recevoir donc le disque. Voici la question. L'accordéon de Pascal Contet en l'occurrence. L'accordéon fait partie des instruments à vent, mais des cuivres ou des bois? L'accordéon est-il un instrument à vent dans la famille des bois ou dans la famille des cuivres? Bien sûr, je donnerai la bonne réponse juste avant 9h avec le nom des gagnants sélectionnés pour recevoir notre cadeau du jour. Le voici, l'accordéon de Pascal Contet. Un extrait de Julio de Juan D'Arienzo, un arrangement pour accordéon et ensemble instrumental. Pascal Contet à l'accordéon avec l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie et avec Paul Meyer qui a posé sa clarinette qui est ici à la baguette. Pour vous, dans la Creuse actuellement, eh bien France Musique y est aussi parce que nous sommes partenaires d'un festival dont la direction artistique est assurée par Valentin Tournet, Musique à la source en Creuse, une troisième édition qui a commencé le 6 août et continue avec plein de beaux concerts jusqu'à samedi. Nous étions avec Marcel Pérez justement qui était en concert avec son ensemble Organum il y a quelques jours. Eh bien si l'on parcourt la programmation, l'on voit qu'après demain, jeudi, c'est un récital Schubert mène à tout par Adèle Charvet et Anne Lebozec en l'église de Rougnat à 21h. Adèle Charvet, que nous sommes heureux d'entendre aussi au disque. It wasn't the policeman's fault in all the traffic roar. Instead of shouting halt when he saw me, he shouted amour, amour, amour. Yeah.
even the ice cream man, free ice creams by the score. Instead of shouting butter pecan, one look at me, he shouted amour, amour, amour. All over town it went that way. Everybody took off the day. Even philosophers understood how good was the good, 'cause I looked so good. The poor stopped taking less, the rich stopped needing more. Instead of shouting no and yes, both looking at me shouted short. I was dragged to court. The judge said, I disturbed the peace, and the jury gave him what for. The judge raised his hand, and instead of desist and cease, the judge, he came to the stand, took my hand, whispered amour, 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 amour. Night was turning into day. I walked alone away. Never see the town again. But as I passed the church house door, instead of singing amen, the choir was singing amour. Amour, amour, amour.
Un titre de William Bolcom que j'adore, l'une de ses cabaret songs, Amour à l'instant, par Adèle Charvet, mezzo-soprano, accompagnée par Suzanne Manoff. Adèle Charvet donc en concert ce jeudi 12 août dans le cadre du festival Musique à la Source en Creuse. Elle sera accompagnée par Anne Lebozec. Musique Matin, à tout de suite.
Bonjour, c'est Laurent Vallière. Cet été, je vous emmène sur la route américaine de la musique. Un voyage au pays de l'opéra, des psaumes, de la musique minimaliste et du gospel. Un périple en 15 épisodes qui vous emmène de New York à Memphis, de la Nouvelle-Orléans à Big Sur. Go West, la conquête de la musique américaine, c'est du lundi au vendredi à 17h sur France Musique et francemusique.fr.
Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger, protéger les plus fragiles et pouvoir bientôt tous se retrouver. Qui peut se faire vacciner aujourd'hui? Toutes les personnes de 12 ans et plus. Alors n'attendez plus. Faites-vous vacciner. Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Assurance Maladie.
Merci d'écouter France Musique en ce mardi 10 août, 8h. Dans quelques secondes, c'est donc l'heure du journal. Journal qui vous est présenté ce matin par Lise Lacombe. Bonjour Lise.
Bonjour Gabrielle, bonjour à tous. Une nouvelle phase de confinement en Martinique face au rebond de l'épidémie. Les autorités ont appelé hier les touristes à quitter le territoire. 10 jours après la mise en place d'un couvre-feu, la Martinique durcit ses mesures. Le préfet de la région a annoncé la fermeture prochaine des hôtels et des commerces non essentiels. Avec une tension hospitalière de 227%, les soignants sont débordés. Aujourd'hui, des renforts devraient arriver sur place en Martinique et en Guadeloupe. Pendant 2 semaines, une trentaine de soignants volontaires prêteront main forte. Boris Loumagne est allé à leur rencontre avant leur départ.
Se porter volontaire pour les Antilles, c'était une décision naturelle pour le docteur Faure. L'infectiologue au CHU de Lille connaît bien la Guadeloupe. Il a travaillé là-bas en 2016.
J'ai des amis qui sont guadeloupéens comme des amis qui sont installés là-bas et qui sont métropolitains. C'est un lien d'affect aussi avec des équipes infirmiers et des équipes de soignants qui sont en souffrance et qu'on a envie d'aider. Et les voir dans une panade comme ça, c'est aussi un surcroît de motivation pour aller donner un coup de main.
Et puis le docteur Faure se souvient des évacuations sanitaires de patients des Hauts-de-France vers l'Allemagne l'année dernière. Cette solidarité entre soignants, il ne l'a pas oublié. C'est à son tour d'aider. Idem pour l'une de ses collègues du CHU de Lille, volontaire également pour les Antilles.
Je m'appelle Emmanuelle Nashberg, je suis infirmière péricultrice. On fait partie d'une profession qui est assez unique quand on est en difficulté. Et je pense que quel que soit le territoire, c'est important de s'entraider dans des situations aussi particulières.
Emmanuelle Nashberg n'a, elle aussi, pris qu'une semaine de vacances cet été. Mais elle a encore un peu de ressources. Son service, la pédiatrie, a été, dit-elle, moins touchée par la crise du Covid que ceux accueillant des adultes.
En Vendée, un suspect placé en soins psychiatriques dans l'affaire du meurtre du prêtre Olivier Maire. Un homme de 40 ans s'est rendu au commissariat pour avouer son crime. Déjà placé sous contrôle judiciaire pour l'incendie de la cathédrale de Nantes en 2020, il avait été accueilli dans la communauté religieuse des frères missionnaires Montfortin où vivait le prêtre. Le suspect a été interné. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte. La planète entre dans une phase critique. Le GIEC a donné son avertissement hier avec son rapport alarmant sur le réchauffement climatique, beaucoup plus rapide que prévu. Un texte qui fait réagir, notamment du côté de Washington. Le président des États-Unis, Joe Biden, a exprimé son inquiétude. « Nous ne pouvons pas attendre pour nous attaquer à la crise climatique », s'est-il exprimé, tandis qu'Emmanuel Macron a appelé à la signature d'un accord à la hauteur de l'urgence lors de la conférence climat qui aura lieu à Glasgow en novembre. En parallèle, quelques milliers de personnes ont manifesté hier soir à Athènes, alors que les forêts continuent de brûler dans le pays, notamment sur l'île montagneuse d'Eubée, où les dégâts sont colossaux. Les manifestants se sont donné rendez-vous devant le Parlement pour exprimer leur colère contre le gouvernement qu'ils estiment inefficace dans cette lutte pour le climat. Ils réclament des fonds pour l'environnement et les pompiers. Plus de 50 civils ont été tués dimanche dans le nord du Mali. Selon les élus locaux, les attaques ont été perpétrées par des djihadistes dans trois villages différents. Le massacre a eu lieu près de la frontière avec le Niger. Kaoru Magasa s'est rendu sur place.
Le visage cerné, un ressortissant des villages attaqués, n'a pas fermé l'œil depuis 24 heures. Malgré l'arrivée des secours, il craint toujours pour la sécurité de ses proches.
Nous, on n'a pas pu communiquer avec eux. Évidemment, c'est l'inquiétude. Les gens, en pareille situation, ont toujours peur.
Situé en plein cœur de la zone des trois frontières, Mali, Niger, Burkina Faso, les environs sont régulièrement le théâtre de combats entre les groupes terroristes et les armées conventionnelles. Prises en étau, les populations sont les principales victimes des exactions.
Ce qui nous a surpris, c'est l'envergure de l'attaque. Mais en réalité, la zone était déjà exposée. Ça fait plusieurs années déjà, il n'y a pas d'État. Et assez souvent, il y a des incursions. Donc, ce qui s'est passé, c'est la preuve, la démonstration qu'effectivement, c'est un no man's land où, occupé justement par les groupes armés terroristes et qui font ce qu'ils veulent en réalité.
Outre la sécurisation des localités, la prise en charge des rescapés préoccupe les associations communautaires.
Des familles vont tomber dans des difficultés. Ils ont besoin d'assistance psychosociale, ils ont besoin d'assistance alimentaire, ils ont besoin d'assistance sanitaire, ils ont besoin d'être tranquillisés.
En cette période d'hivernage traditionnellement dévolue à l'agriculture, l'aggravation de la crise humanitaire pourrait augmenter le nombre de victimes collatérales de ces attaques.
Un reportage de Kaoru Magasa. Le ciel ce matin assez chargé, de la Bretagne à la Normandie. Quelques pluies passagères à prévoir sur les Hauts-de-France et la région parisienne. Le soleil fera son retour cet après-midi. Ailleurs, le soleil est globalement généreux, quoique parfois voilé. Les températures seront en hausse. Il fait actuellement 18 à Paris et Bordeaux, 16 à Brest et à Lille, 24 à Marseille. Il est 8h, passé de 5 minutes. Vous êtes sur France Musique. Je vous laisse en compagnie de Gabriel Oliveira Guyon pour Musique Matin.
Et je crois que l'été commence vraiment demain à Paris, si j'ai bien compris. Bon, vous revenez pour nous donner la bonne nouvelle. À tout à l'heure, midi, pour un prochain point sur l'actualité.
C'est l'été sur France Musique. Le 7h30, 9h de Gabriel Oliveira Guyon, Musique Matin.
Et bienvenue si vous nous rejoignez. Merci d'être fidèle à France Musique. Des musiques matins estivaux qui vous font part de toute l'actualité musicale en France et dans le reste du monde. Et justement, dans 5 minutes, nous irons en Italie pour notre tour de France des festivals avec Olivier Descotes, directeur général du festival Rossini à Pesaro. À 8h25, place à la création. Ce matin, la compositrice, mais également violoniste, Élise Bertrand. Et à 8h30, nous avons le grand bonheur de recevoir le clarinettiste Yom pour son concert à Jumièges dans quelques jours et pour écouter ensemble son dernier disque Célébration, une beauté. Et puis ça aussi, c'est une beauté.
Thank you.
L'Allegro agitato molto des 12 études d'exécution transcendante de Franz Liszt interprétée par Nelson Görner, pianiste en concert ce soir à 21h à la Roque d'Anthéron, à l'auditorium du Parc, à ne pas manquer si vous êtes en vacances ou que vous vivez vers l'abbaye de Silvacane, Salon de Provence, Cavaillon ou encore Aix-en-Provence. À 8h11, tout de suite, un autre festival, mais en Italie. Cette fois, on passe la frontière avec notre vélo. Direction la mer Adriatique, précisément à Pesaro, ville natale de Gioachino Rossini. Bonjour Olivier Descotes.
Bonjour.
Bienvenue dans Musique Matin, vous êtes le directeur général de ce festival, le Rossini Opéra Festival, qui a commencé hier et s'étend jusqu'au 22 août. Inauguration donc hier avec Moïse et Pharaon sous la direction musicale de Giacomo Sagripanti. Opéra repris encore 3 fois durant le mois d'août. Quelles ont été vos premières impressions, Olivier Descotes? C'est un peu un retour du festival qui l'an dernier a dû être repensé et un petit peu réduit.
Oui, l'année dernière on a dû se recentrer sur un festival sur la place centrale, avec des microphones, donc c'était pas exactement le festival tel qu'on l'avait imaginé. Et d'ailleurs, un certain nombre de productions de l'année dernière ont été reclassées pour cette édition 2022. On a ouvert avec Moïse et Pharaon dans une mise en scène d'un metteur en scène légendaire pour le festival, Pier Luigi Pizzi, parce qu'il est là depuis 40 ans en fait. Il a fait une dizaine de spectacles. C'était un spectacle épuré, à 100 lieues des premiers spectacles de Pizzi, qui a eu un énorme succès public, de même que la direction musicale de Giacomo Sagripanti, qui est aussi bien connu en France, à la tête de l'orchestre de la RAI, de la radio-télévision italienne.
25 représentations en tout, dont 4 nouvelles productions. C'est une grande organisation. C'est un festival né en 1980, il y a donc 41 ans. Vous-même, vous avez été nommé directeur du festival en 2019. On le sait, Olivier Descotes, vous êtes un amoureux de l'Italie. Vous avez occupé des postes importants dans les milieux culturels franco-italiens. Que voulez-vous apporter à ce festival? Comment, par exemple, avez-vous pensé le programme cette année?
Cette année, le programme est en fait... Le conglomérat du programme de l'année dernière, c'est pour ça 25 représentations, c'est bien supérieur, c'est un record en fait, c'est bien supérieur à ce qu'on a jamais eu au festival, et d'autant plus que ce sont essentiellement des nouvelles productions. On a 3 nouvelles productions d'opéra, Moïse et Pharaon, mais aussi Le Seigneur Bruschino, Elisabeth, Reine d'Angleterre. Traditionnellement, le programme s'articule avec l'idée d'une variété en fait dans les titres. Le Seigneur Bruschino, c'est une farce légère, sans cœur, de Rossini. Elle a été confiée au duo franco-canadien Barbe et Doucet, et ils ont fait un spectacle d'une profondeur psychologique absolument magnifique. Et puis d'un autre côté, traditionnellement, on donne toujours un opéra seria, en espèce de la période napolitaine de Rossini, Elisabetta Regina d'Inghilterre. C'est la française Karine Dehé qui est la protagoniste, magnifique en tout point, je dois dire. Et il y avait autour d'un cast international de premier plan.
Karine Dehé, que nous avons reçue, nous, depuis Pesaro, mezzo-soprano française, pendant les répétitions d'Elisabeth, reine d'Angleterre. Une prise de rôle bien attendue, elle aussi, cette production devait se donner l'an dernier. Le public a gardé ses places d'une année à l'autre, alors ça, vous avez fonctionné comme ça?
Oui, on a eu aucun problème. Le seul problème maintenant, c'est de pouvoir accueillir le public, parce qu'en Italie, on a une situation paradoxale. On doit garder naturellement les masques dans le théâtre, mais on doit aussi maintenir une distance d'un mètre, si bien que les jauges sont considérablement réduites. Hein. On passe de 150 places à 500 places dans un théâtre et 710 à 200. Donc l'enjeu maintenant, c'est de satisfaire l'ensemble du public qui veut assister aux représentations.
Est-ce que c'est un public italien à 100% ou des amoureux de Rossini viennent du monde entier à Pesaro?
Non, traditionnellement, le public vient majoritairement de l'étranger. Globalement, pour chaque édition, c'est 70% d'étrangers et 30% d'italiens. Cette année, avec les restrictions Covid, on tombe à 50%, mais ça me semble un chiffre assez impressionnant compte tenu de ce que doivent parfois subir certains spectateurs, quarantaine, etc. C'est un public aussi très, très fidèle, je dois dire.
Et puis le 22 août, le Rossini Opéra Festival se conclura avec un gala pour inaugurer un nouvel auditorium qui est dans Pesaro même, Olivier Descôtes.
Oui, alors le nouvel auditorium n'ouvre pas en réalité, les travaux ne sont pas terminés, on nous l'a signalé assez récemment. Et puis par ailleurs, le président de la République, pour la première fois dans l'histoire du festival, le président de la République italienne, viendra donc pour entendre le concert. Donc la décision a été prise de donner le concert sur la grande place de la ville.
D'accord.
Pour donner aussi accès à un plus large public. Mm-hmm. L'auditorium est très attendu des admirateurs du festival.
Mais oui.
Qui devrait être ouvert l'année prochaine et on l'ouvrirait avec le Contori par Florès.
Alors plusieurs lieux donc pour ce festival, le Théâtre Rossini qui a été inauguré en la présence du compositeur lui-même, c'est ça ? C'était en quelle année ?
C'était autour des années 1810 et il est resté là quelque temps, on sait où il était assis précisément.
Ah oui.
Il a assisté à quelques représentations. Mais à
il était
donné,
en loge, j'espère.
Il était énervé et il n'a plus repu les pieds au théâtre. Il faut dire qu'il avait un rapport assez difficile avec la ville de Pesaro.
Sa ville natale.
La ville natale, et ensuite il allait à Bologne. Mais et d'ailleurs, il n'a jamais été très tendre avec Pesaro de ce point de vue-là, mais le fait est qu'après son parcours à Paris, etc., et dans son testament, il a indiqué que c'était bien la ville de Pesaro qui devait être dépositaire de son héritage, ce qui a permis la constitution du conservatoire Rossini,
oui.
Et aussi de la fondation Rossini, qui est la fondation scientifique qui nous aide, qui nous épaule au niveau musicologique, pour donner les éditions critiques du compositeur.
Mmh.
Parce que ça, c'est la spécificité du festival, c'est de s'appuyer uniquement sur les éditions critiques.
Merci beaucoup Olivier Descôtes, directeur général du festival Rossini à Pesaro, festival qui se poursuit jusqu'au 22 août prochain avec entre autres la grande rossinienne mezzo-soprano française Karine Deshaies. Merci d'avoir été avec nous et très bon festival.
Merci, au revoir.
Millionis colores voi pintando esto un día voi cuando la musa mía voi me vino a atormentar voi
Oh,
mezzo-soprano Karine Dehé avec les forces majeures de Raphaël Merlin dans cette canzonetta spagnola orchestrée par Raphaël Merlin, canzonetta de Gioachino Rossini. À 8h21, il est temps de vous annoncer les concerts à l'affiche du jour sur France Musique. 3 concerts inédits, on va remonter le temps. Ce soir à 23h, sous les étoiles ou la pluie d'ailleurs, on ne sait plus. Le trio du claviériste Étienne Manchon en concert tout récemment à Jazz in Marciac, présenté par notre chère Nathalie Piollet. À 20h, pas encore sous les étoiles, mais peut-être déjà et encore sous la pluie, Alléluia, le récital de Jakub Józef Orlinski au Festival Radio France Occitanie-Montpellier, accompagné par Il Pomodoro sous la direction de Zéphira Valova, un concert présenté par François-Xavier Tchimchak. Et puis cet après-midi à 16h, le concert du Mozarteum Orchestra de Salzbourg dirigé par Ivor Bolton. L'un des ensembles les plus énergiques dans la musique baroque, je vous en parlais à l'instant, c'était Il Pomodoro. Ce sera à 20h avec Jakub Józef Orlinski, mais là, on va les écouter, Il Pomodoro, dans Vivaldi l'Allegro du concerto en sol pour deux violons. L'Allegro du concerto en sol mineur pour deux violons d'Antonio Vivaldi, interprété par Riccardo Minassi et Dimitri Sinkovski aux deux violons, accompagné par l'ensemble Il Pomodoro. 8h25 sur France Musique, notre instant musique de notre temps. Sur quelques minutes, tendre l'oreille chaque matin sur le travail passionné et essentiel, les différentes esthétiques des compositeurs et compositrices d'aujourd'hui, c'est place à la création.
Musique Matin.
Et ce matin, une jeune violoniste et compositrice, Élise Bertrand, née en 2000. Après des études à Toulon, elle entre à 14 ans au CRR de Paris et commence à étudier la composition avec Nicolas Bacri. L'envie de la composition qui, chez elle, est née du goût de l'improvisation dès son plus jeune âge. En 2020, elle obtient sa licence au Conservatoire de Paris en violon dans la classe de Roland Dogareil. Et en tant que compositrice, ses pièces sont commandées par des ensembles, des instrumentistes éminents. Et voici ce matin la dernière de ses trois mélodies sur des poèmes d'Éluard. Élise Bertrand l'a composée pour sa meilleure amie, la soprano Emmanuelle de Muiter, pour ses 20 ans. Une œuvre qu'elles ont créée ensemble en février 2020 dans le cadre des concerts Cantus Formus organisés par Nicolas Bacri. Une belle amitié qui continue sur scène et dans la vie. Le poème de la dernière mélodie s'intitule « Ordre et désordre de l'amour ». Ici, la soprano Emmanuelle de Muiter est accompagnée par Élise Bertrand, mais au piano. Trois mélodies pour soprano et piano signées Élise Bertrand, compositrice qui là est également au piano, accompagnée par la soprano Emmanuelle de Muiter dans cette mélodie, celle-ci intitulée « Ordre et désordre de l'amour ». 8h30, il est l'heure tout de suite de recevoir notre invité.
Musique Matin, le 7h30, 9h de Gabriel Olivier Aguillon.
Notre invité, un clarinettiste dont la musique et le son me fascinent, me fait voyager, pleurer, danser, sourire à la vie entière même. Bonjour Yom.
Bonjour.
Vous êtes avec nous, Yom, depuis Rennes, où vous êtes en résidence avec le pianiste de votre dernier disque, Léo Jassef. Est-ce que je prononce bien son nom ?
Tout à fait.
Et une chorégraphe, Johanna Fay, associée au CCN de Rennes pour créer donc une œuvre dont la première se jouera à Suresnes. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Yon.
c'est très particulier parce que on est au tout début du travail et c'est vraiment un travail sur la transe et sur la méditation, bon, qui est quelque chose que je travaille depuis assez longtemps. Mais on était vraiment parti sur le répertoire de mon dernier album, donc on avait fait avec Léo. Et déjà en une journée de répétition, on est parti complètement ailleurs. On est parti dans une espèce de transe assez particulière. Je joue pas mal de percussions ces derniers temps et de plus en plus de la grosse caisse symphonique, un espèce d'énorme tambour très vibrant et c'est un aspect que j'avais déjà un petit peu exploité sur le dernier disque, mais là c'est comme si on s'était engouffré sur ce petit aspect du dernier disque et qu'on en faisait une pièce complète, voilà.
Parce que sur votre disque, effectivement, Célébration, paru chez Comos au printemps, vous êtes donc à la clarinette bien sûr, mais comme Léo Jassef, également au piano et aux percussions. Vous serez d'ailleurs en concert dans le cadre des Musicales de Normandie, un festival qui a lieu tout l'été, le 22 août dans les ruines de l'abbaye de Jumièges. Le même donc que l'on trouve à vos côtés, ce pianiste-là. Vous avez dit, je peux dire que c'est mon premier album de compositeur comme une célébration. Vos autres disques, alors c'était quoi? Juste le rôle d'interprète dans un élan?
C'est sûr que dans mes autres albums, je pense que l'interprétation supplantait la composition dans le sens où c'était... je dirais pas que c'était des démonstrations clarinettistiques, parce que je pense que ça fait quand même quelques années que je suis plus trop là-dedans, mais j'avais du mal à m'assumer comme compositeur en dehors de mon rôle d'interprète, et c'est quand même le premier disque dans lequel il y a des morceaux où il n'y a pas de clarinette.
C'est vrai.
Et aussi des morceaux où même quand il y a de la clarinette, c'est pas une clarinette surinterprétée comme j'ai pu le faire, c'est une clarinette qui des fois est un peu plus discrète, et je pense que l'harmonie, la mélodie ressortent indépendamment de mes performances de clarinettiste. Mmh. Et c'est une nouvelle direction pour moi un peu quand même, je le ressens.
Célébration d'ailleurs, ça signifie ça aussi, elle représente quoi cette célébration? Quelque chose de plus posé, plus réfléchi, moins instinctif, et puis un bel événement aussi dans votre vie?
Ouais, tout à fait. Un bel événement, même si le disque, je l'ai composé avant la naissance de mon fils, qui a eu lieu l'année dernière, mais c'est vrai que voilà, on voyait clairement qu'il allait pas tarder à arriver, et ça a provoqué en moi toutes sortes de d'émotions très fortes et nouvelles, et ça a inspiré un album qui est pour moi peut-être un peu moins dramatique que d'autres, et qui même dans la manière de jouer de la clarinette est aussi moins porté vers une émotion exacerbée, une surinterprétation post-romantique.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est plus méditatif, plus mélancolique. Mais en même temps, chez vous, Yom, il n'y a jamais eu de constante dans les styles. Hein. Soit vous êtes dans un univers très euphorique, festif, d'une rythmique absolument virtuose, soit dans des projets qui nous font dresser les poils, des choses très intime. D'ailleurs, on va écouter ces facettes différentes dans votre jeu ce matin, dans votre musique. Vous voyez ce que je veux dire quand je parle de ces différentes facettes de votre musique ?
Tout à fait, vous avez totalement raison. Et d'ailleurs, j'ai tendance ces derniers temps à dire oui, c'est une nouvelle phase de ma vie, ça y est, la méditation, la sagesse, etc. Et puis je peux confirmer au jour le jour, enfin plus exactement les personnes qui vivent avec moi pourront vous le confirmer, qu'au jour le jour, rien n'a réellement changé et que ça ne m'étonnerait pas que mon prochain disque soit un truc complètement déchaîné et extrêmement dansant et pas du tout méditatif, ça pourrait arriver.
Méditatif et mélancolique, on va en écouter un extrait de ce disque Célébration, paru chez Comos, et c'est à tomber par terre de beauté.
Thank you.
Léo, Jassef et Yom à la clarinette ici dans ce titre Elegy for the Newborn, une composition de Yom, extrait de Célébration, dernier disque des musiciens paru au printemps chez Komos. Yom qui est notre invité ce matin à 8h39. Yom, nous avons entendu effectivement votre clarinette ici, pas dans une démonstration virtuose, mais toujours cette sonorité si chaude. Et puis ce piano, c'était quoi? C'est une sorte de piano préparé?
Oui, alors c'est on a enregistré tout l'album, enfin 99% des pianos de l'album sont joués en fait sur un piano droit avec la sourdine. Enregistré les micros vraiment dans le piano d'ailleurs.
Ouais, on entend bien les marteaux.
Ah oui, on entend les marteaux et on a travaillé en plus au mix pour les augmenter encore après. Je salue le travail vraiment de l'ingénieur du son Félix Rémy au studio Pigalle qui nous a fait ce son, parce que c'est vraiment un aspect important de l'album. Et puis aussi évidemment le travail de Léo Jassef qui a pu de par son groove implacable empiler les couches de piano les unes sur les autres avec une manière de composer pour moi qui est beaucoup aussi à l'oral. Donc il y a des choses qui sont écrites et puis il y a des choses où vraiment je lui dis en live, tiens, est-ce que tu peux essayer ci, est-ce que tu peux essayer ça, et il a vraiment survolé ce moment du studio avec une grande élégance. Et le résultat d'ailleurs, je me permets de reprendre un petit terme que vous avez utilisé tout à l'heure pour par rapport au disque, vous avez dit mélancolique, et alors je préférerais qu'on dise nostalgique, parce qu'effectivement il y a de la nostalgie, mais je crois vraiment pas que, enfin pour moi je ressens pas ce disque comme étant mélancolique, mais au contraire comme vraiment un disque qui fait un état du passé, qui hésite pas à regarder derrière et voir peut-être effectivement les choses tristes qu'il y a pu avoir, mais avec vraiment un regard vers l'avenir et vers quelque chose de meilleur, même si il faut continuer à avoir beaucoup d'espoir en ce moment pour y croire, mais
on y croit.
Voilà.
Du klezmer traditionnel revisité aux musiques électroniques en passant par le rock, la musique classique, contemporaine, sans parler des formes absolument inclassables. Est-ce que le classique, par exemple la musique minimaliste, ou pour entendre également du Steve Reich, il y a toujours aussi une touche orientale, klezmer, ces musiques juives d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, musique de cérémonie, est-ce que ça aussi c'est toujours et encore là, aussi cette influence klezmer orientale également?
Oui. Alors peut-être qu'on peut plus vraiment parler d'une influence complètement klezmer maintenant, parce que c'est vrai que au fur et à mesure, je suis sorti vraiment du côté purement musique juive d'Europe centrale et d'Europe de l'Est pour écouter et m'inspirer de toutes les musiques d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, les musiques gitanes également, mais pas seulement. Et puis après, je suis allé effectivement vers les Balkans, et en arrivant aux Balkans, on arrive à la Grèce. Juste après la Grèce, il y a la Turquie. Pas très loin de la Turquie, on est dans le doudouk arménien, et tout ça, ça a fait une espèce de... Voilà, pour moi, tout ça est complètement relié. C'est pour ça que j'utilise peut-être moins dernièrement le terme klezmer, parce que il est presque limitant par rapport à ce que j'essaye de trouver comme son à la clarinette. Mais en tout cas, il est clair que l'Orient, le Moyen-Orient et toute cette zone qui va de l'Europe centrale jusqu'à l'Orient, peut-être même jusqu'à la musique indienne, si on veut aller vraiment au bout de ma tentative de cheminement, c'est toujours là, oui, vraiment.
Vous explorez donc l'univers entier, la musique vivante, c'est une musique qui bouge, qui bouge avec vous. On l'a entendu aussi dans votre disque, l'Exode du silence, un disque un peu plus vieux, le silence de l'Exode, pardon, un voyage là aussi, plus historique d'ailleurs, plus spirituel. Vous-même, est-ce que vous voyagez beaucoup, Yom?
Alors en ce moment pas beaucoup, mais ouais. Mais je fais partie vraiment... comment dire, j'ai beaucoup voyagé, ça c'est certain. D'abord les tournées, puis pas seulement. J'ai fait, j'ai eu un grand côté sac à dos, baroudeur, tout le temps dans des trains et etc. Et beaucoup de marches aussi. Maintenant, je suis et pas seulement pour des raisons écologiques, très partisan de la capacité à voyager à l'intérieur de son propre esprit, parce que ça me paraît quand même extrêmement vaste. Et vous parliez tout à l'heure de musique classique. Évidemment, pour voyager, on pense à la musique du monde, aux musiques du monde, etc. Mais moi, dans la musique classique, il y a effectivement quelque chose au niveau de la liberté de la forme, des différents courants, différentes périodes, qui me fait extrêmement voyager. Quand j'écoute les années de pèlerinage de Liszt, par exemple, c'est aussi efficace pour moi que d'aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Enfin, ça m'arrange bien de le dire, en tout cas, mais...
mais mettre en musique une aventure, en fait, ça peut être ça aussi. C'est voyager par la musique. En l'occurrence, c'est ce que vous avez fait pour ce disque, justement, le Silence de l'Exode.
Ah oui, alors là, vraiment, le Silence de l'Exode, c'est exactement ça. D'ailleurs, pour moi, c'est un pendant peut-être avec un peu plus oriental que Célébration, mais d'un certain côté, on est pas loin de la même démarche, sauf que là, c'était vraiment sur le livre de l'Exode, donc c'était vraiment l'Exode des Juifs hors d'Égypte il y a 3500 ans, et j'étais tous les matins, je lisais le livre de l'Exode, et puis hop, j'allais dans mon studio composer, et tout de suite, je savais si ce que je composais était en rapport avec mon sujet profond ou pas, et puis de temps en temps, j'écrivais quelque chose, et je disais, ok, je le garderai pour plus tard, mais ça n'a rien à voir dans ce projet. C'était très précis, et là, c'est pareil, et là, c'était vraiment quelque chose qui était dédié à mon fils qui allait venir, et aussi à ma femme qui le portait, et il y avait quelque chose, ça pouvait que être juste ou alors n'être pas. Donc tous les matins, par exemple, moi je compose vraiment le matin très très tôt, entre 5h et 9h à peu près, et j'écrivais, et tout de suite je voyais si c'était, alors c'est marrant que vous ayez fait écouter d'ailleurs ce morceau, parce que ce morceau pour moi caractérise vraiment ma relation à mon fils avant qu'il soit né. C'est-à-dire que d'ailleurs je lui ai fait écouter, c'est un peu égocentrique, je reconnais, mais il a
quel âge surtout, il a combien de mois?
Il a 17 mois maintenant. Okay.
Voilà, Elegy for the Newborn, c'était ce titre que nous écoutions.
Ouais, Elegy for the Newborn. Alors quand je l'ai composé, il n'était pas né, mais il y avait vraiment quelque chose. C'était à la fois une appréhension de l'avenir, en même temps souvenir du passé, de sa propre enfance. Et puis après, on peut pas aussi, enfin moi qui viens de la musique klezmer, on peut pas faire cette musique sans penser au passé. Il y a une mission dans la musique klezmer aujourd'hui, vu que c'est une musique qui a failli s'éteindre complètement et qui est évidemment très fortement liée à des événements dramatique du XXe siècle. On peut pas faire cette musique sans penser au passé. Il y a quelque chose de l'ordre de la mission historique, mission de mémoire qui se tisse. Et j'ai beau ne plus faire de la musique klezmer traditionnelle, j'ai gardé vraiment ce rapport à la musique comme une forme de mission assez forte. Et en composant ce répertoire Célébration, il y avait vraiment une espèce de mise en abîme de ma propre enfance, de tous mes ancêtres avant moi, et puis et de mon fils à venir, en espérant qu'il ait moins à porter sur ses frêles épaules que moi.
On va écouter, Guillaume, un extrait de votre disque qui date donc de 2018, Le Silence de l'Exode. Silence. Thank you. De l'épisode de la sortie d'Égypte du peuple juif et de ses longues années d'errance dans le désert du Sinaï, c'était à l'instant l'exode du silence par Yom aux clarinettes, accompagné par Farid D au violoncelle, Claude Chamichian à la contrebasse ou Bijan Chemirani aux arpes, Daf ou encore Bendy. Yom à la clarinette qui est notre invité ce matin. Yom, ce voyage-là, on l'a entendu, on sent dans votre disque, nouveau disque Célébration qui est sorti tout récemment, quelque chose de moins enragé, quelque chose de plus posé. Je voulais là maintenant parler un peu de votre parcours plus classique, on va dire, de musique savante occidentale que vous avez abordé vous-même. Je sais entre autres que vous allez être à la Philharmonie de Paris en novembre prochain avec l'Orchestre de Chambre de Paris autour de Beethoven également, musique qui sera au cœur, et votre musique également, au cœur d'un spectacle de Marie-Ève Signerol appelé Baby Doll.
Oui, tout à fait. C'est un spectacle absolument magnifique qui a été imaginé par Marie-Ève Signerol en collaboration avec l'Orchestre de Chambre de Paris et qui est un récit musical du périple d'une migrante érythréenne tentant de rejoindre la France. Et elle a fait quelque chose d'assez incroyable. Et alors ma mission était quand même assez complexe, étant donné que c'est basé sur la 7e symphonie de Beethoven. Mmh. Et en fait, la symphonie de Beethoven représente un peu l'Eldorado occidental à atteindre. Ouais. Et moi, on m'a demandé de composer des sortes d'intermèdes, mais qui en fait, au final, font la même longueur que la 7e de Beethoven, pour montrer la réalité de la route et du chemin très 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 complexe qu'a rencontré cette femme, mais que rencontrent toutes les femmes, et pas seulement les femmes d'ailleurs, mais là c'est quelque chose qui est axé sur le féminin et sur les difficultés particulières des femmes sur le chemin, qui sont vraiment terribles. C'est un spectacle magnifique, mais qui vous laisse pas indemne. Hein. Voilà, je préviens.
Prévenez, le 10 novembre à la Philharmonie de Paris et puis également en mars à Lyon. Yom, vous serez plus près de nous en concert le 22 août prochain dans l'abbaye de Jumièges, dans les ruines, dans le cadre du Festival Les Musicales de Normandie. Vous serez également le 10 septembre à Mantes-la-Jolie pour le Festival Éole. Voilà, de belles actualités dont on aimerait parler encore et encore avec vous. Avant de se quitter, évidemment, on écoute un dernier disque, Erratic Love, dernier titre de votre dernier disque, Célébration, Yom. On va terminer avec une question plus personnelle. Au moment où on se parle, quoi que vous nous avez quand même beaucoup parlé de votre enfant et de votre vie, de vos voyages. Là maintenant, au moment où on se parle, vous iriez où, avec qui et en écoutant quelle musique, Yom?
Mais alors, j'irai dans un endroit où je suis déjà allé, où j'ai passé du temps quand j'étais beaucoup plus jeune, vers 20 ans, dans un petit village du sud de Taïwan, où j'ai passé 8 mois il y a longtemps. Et c'est vrai que c'était un endroit absolument merveilleux où j'aimerais bien retourner maintenant avec ma nouvelle famille, avec ma femme et mon fils, redécouvrir cette espèce de liberté totale de s'inventer à l'autre bout du monde. Dans la vie réelle d'aujourd'hui. Et puis alors, si je devais emmener juste un disque ou une série de disques, je pense que je prendrais la musique indienne, et notamment un duo entre Ali Akbar Khan et Subramaniam, qui sont voilà, deux musiciens extraordinaires. Et ils ont fait un disque ensemble qui est phénoménal. Et à mon avis, qu'on peut étudier ad vitam aeternam.
Merci beaucoup, Guillaume. Je vous souhaite de beaux concerts, une jolie vie avec le fiston et la femme. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Conseil, ce disque tout récent, Célébration. À l'instant, on en écoutait quelques notes de ce titre, Erratic Love, composé par Guillaume. Notre musique matin s'achève avec ces quelques notes de clarinette. La réponse à notre jeu ce matin, 7h50 comme chaque jour, eh bien ce matin, il fallait répondre l'accordéon, qui est un instrument à vent dans la famille des bois. Voilà, c'était la bonne réponse. Bravo à Claude, Denis ou encore Véronique. Demain, dans Musique Matin à 8h30, nous recevrons le pianiste Théo Fouchonneret pour son concert très prochainement. C'est samedi à la Roque d'Anteron. Merci à toute l'équipe, Élise Lejeune et Valentin Carpentier qui m'aident chaque jour à préparer l'émission. Taïsia Froidur à la réalisation et à la technique avec nous, face à moi ce matin, Titouan Labarre et José Bernès. Je vous retrouve demain à 7h30 avec grand plaisir. Et maintenant, je vous laisse en compagnie de Julien Hanck. Bonjour Julien.
Bonjour Gabriel.
Est-ce qu'on va écouter un peu de clarinette dans votre programme?
Non, pas exactement.
Ah ok, alors on peut avoir d'autres instruments peut-être? Avec quoi on commence?
De la balalaïka.
Ah ben voilà, très bien. Bonne émission, Julien.
Merci, bonne journée à demain.
Merci.
À réécouter sur francemusique.fr.